Meïté, notamment Ismaïla Sarr ou encore Jonathan Clauss ou Valentin Rongier. Suspension aujourd'hui de Gigot et Darit, Mbemba qui a légèrement rechuté aussi, donc il fallait bricoler, ils ont bricolé, Jean-Louis Gasset l'a fait, c'est un bon petit nul.
Écoutons Fariz Moumbagna, tiens, justement, chez nos confrères de Canal Plus Sport.
Il n'y a pas place pour raconter le but maintenant, parce qu'on perd des points, et on se peut pas de perdre des points comme ça, et on sait que ça a été difficile depuis le début de la saison, à l'extérieur, mais on se devait de faire un résultat, on doit être plus concentré, on doit être plus serein. Sur le prochain match, on doit fixer ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui.
Ouais, félicitations à Fariz Moumbagna quand même, parce qu'il met un but extraordinaire, on lui demande de décrire son but, et il dit voilà, on a perdu des points.
Mais c'est bien, maturité, exemplarité, humilité. Non, mais,
ce garçon, il est limité techniquement, évidemment, même si là, il met un but pour le coup plutôt technique.
Ah oui.
Mais il dégage quelque chose en termes d'envie. Alors, ça ne suffit pas, évidemment, l'envie quand on est joueur de foot. Mais
à Marseille, c'est essentiel.
Et oui, alors un peu trop d'ailleurs. Parce que oui. Par exemple, Samuel Gigot est un héros. Pareil, Samuel Gigot est quand même de grosses lacunes. Si ça suffit de courir, de crier et de montrer les cuissons au public,
moi aussi,
je peux aller. Tu vois, c'est pas suffisant.
On fait pas une carrière sur ça, ça c'est certain. Mais
évidemment, Gigot n'a pas que ces qualités-là, mais. Mais parle souvent de ces qualités-là.
Bien sûr, mais c'est vrai que Moumbagna, de ce côté-là, on peut rien le reprocher. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il entre, il affiche beaucoup d'envie, il est accrocheur. Et le problème, c'est qu'il n'avait que très peu marqué. Il a marqué que 2 buts, je crois, depuis son arrivée, avant cette semaine-là. Oui, là, il s'offre 2 buts en 2 matchs. Mais c'est vrai qu'à Marseille, on a tendance un peu à regretter son manque de justesse technique, dans ses déviations, dans son jeu d'eau, but. Mais à chaque fois qu'il entre, il se passe quelque chose. Je trouve qu'il pèse sur les défenses adverses. Il est mobile. Il est disponible et là en plus il marque, s'il parvient à marquer comme ça, à confirmer avec un Aubameyang qui fait quand même à côté de lui une grande saison. Je crois qu'Aubameyang c'est quand même 25 buts, 10 passes décisives, toute compétition confondue.
Ah oui, énorme.
Lorsqu'il ne marque pas, il est passeur. On l'a vu encore contre Benfica cette semaine.
Elle va quand même être sacrément serrée cette lutte pour la 7e place, hein, qui pour l'instant n'est pas qualificatif pour la Coupe d'Europe.
Tout à fait.
Il le serait en cas de victoire du PSG contre Lyon en finale de la Coupe de France. Mm-hmm. Rennes a 42 points, Lyon en a 41, Marseille en a 40, Reims en a 40 aussi. Donc il y a 4 équipes là qui se tiennent en 2 petits points. Cette 7e place, tout le monde va la scruter. On pensait que Reims, en perdant à domicile contre Montpellier, allait être décroché, mais comme Lyon pour l'instant perd, que Marseille n'a fait que match nul, que Toulouse évidemment n'a fait que match nul également, et il y a que Rennes finalement qui a gagné, qui s'est replacé. Finalement tout le monde reste dans le coup.
Ah oui, tout le monde reste dans le coup, et ça va être le cas jusqu'au bout. C'est ça qui est génial aussi, c'est que le titre, on sait bien depuis bien longtemps qu'il n'échappera pas au Paris Saint-Germain, mais que ce soit dans la course à la Ligue des Champions, au 2e et 3e place, même 4e, parce que j'aime pas l'appeler comme ça, mais c'est souvent la place du con, et là celle-là elle va compter quand même en fin de saison, celui qui va terminer 4e dans une saison où t'as les 3 premiers billets qui sont directement qualificatifs pour la Ligue des Champions, le 4e il va pas être très heureux. Donc de ce côté-là ça va lutter jusqu'au bout. 5, 6 aussi, la 7e possiblement qualificative, ça se jouera entre Rennes, Lyon, Marseille, Reims, et peut-être que Lens sera concerné aussi, parce que Lens a du mal à terminer cette saison. Donc et puis en bas de tableau, on le sait, on l'a dit, avec la belle opération de Metz dans cette finale pour le maintien qui va gagner au Havre, ça va lutter jusqu'au bout. Donc on a une Ligue 1 qui va être passionnante jusqu'à la dernière journée.
Ouais, mais je vois encore que tout le monde est médiocre, hein. La vérité elle est là. C'est
oui, mais il faut essayer de toujours le verre à moitié plein.
Non, mais oui, bien sûr, j'entends.
C'est mieux quand même, non?
Mais c'est vrai, quand on regarde Lens par exemple, c'est une saison tellement décevante par rapport à ce qu'ils ont fait la saison passée.
Rennes, tu peux le dire, parce que Rennes,
il y a eu un effet Julien Stéphan qui était flagrant, et c'est très bien, mais derrière effectivement ça a été assez difficile avec notamment 3 défaites consécutives. Lyon, c'est pareil, on sent que c'est une équipe qui est encore malade. Nice, ça fait longtemps que le tube niçois s'est arrêté. Il y a eu cette victoire qui a un petit peu rassuré tout le monde face à Lorient. Marseille, c'est pareil. Lille, moi j'attends aussi beaucoup de cette équipe de Lille, que tout le monde aime, qui produit du jeu, qui a un entraîneur formidable, qui a une équipe qui est de très grande qualité, mais pareil, qui dans les moments décisifs en tout cas, n'a pas forcément à chaque fois la carrure pour aller là, ils ont gagné 1-0, c'est bien, mais aller vraiment gagner le match qu'il faut comptablement pour vraiment aller jusqu'au bout. On l'a vu la saison passée où ils terminent en Europa League. Non, il termine en Ligue Europa Conférence pour un match nul face à 3 qui était déjà relégué en Ligue 2. Ouais. C'est aussi une équipe qui manque de caractère. Donc en fait,
ils marqueront les esprits mercredi, les Lillois.
Bah, ce serait bien.
Peut-être, mais les Lillois, ils sont sur une très bonne dynamique.
À,
et c'est peut-être
à Louis
II, les équipes les plus
cohérentes. Pour ce choc entre Monaco et
Lille. C'est un choc qui va avoir son pesant d'or. En fait, s'il y a une victoire de Lille, pauvre Brestois, j'ai peur que ce soit compliqué pour ne pas terminer quatrième.
Ouais.
S'il y a une victoire de Monaco, Monaco s'échappera. S'il y a un match nul, ça laisse le match pour tout le monde. Donc c'est un match qui va être très important.
Ils gagnent, ils reviennent à hauteur de Monaco en termes de points. Donc,
Avec une goal average qui est sensiblement le même, non d'ailleurs, je crois. Non, même Lille est devant. Donc s'ils gagnent, ils seront devant. Mmh. Ouais, ça va être intéressant ce match à Louis II. Monaco qui s'est imposé à Brest, justement 2-0, début de Zakaria Minamino. On a écouté tout à l'heure Eric Roy et Brel Embolo au micro RT de Philippe Audin. On va écouter Julien Le Cardinal chez nos confrères de Prime Vidéo. Juste, alors. C'est sa réaction juste à la sortie du terrain. Donc vous allez voir qu'évidemment, on a beaucoup parlé d'arbitrage. Bah, là encore, il en parle, lui.
Grosse déception. Au vu de notre première mi-temps qui a été, je dirais, pratiquement parfaite. Encore défait de match. Après, je vais rien dire pour l'instant, mais on n'a pas encore vu les images. Sur le premier but, s'il y a faute ou pas sur moi. Parce que pour moi, je ne peux pas dégager convenablement le ballon. Après, voilà, c'est effet de match. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on doit... Je pense qu'on doit mener à la mi-temps. Voilà, on n'a pas à rougir. Je trouve qu'on a fait un très bon match. Et voilà, déception, bien sûr. Mais il reste encore 4 matchs et on va les jouer comme aujourd'hui. C'est pas parce qu'on vient de faire deux revers de suite qu'on craque non plus. Je trouve qu'on propose du beau football. On a nos idées de jeu. C'est très bien ce qu'on fait pour moi. Faut pas oublier où était le club l'année dernière. Donc voilà, faut continuer là-dessus.
Voilà, Brest qui a besoin de se relancer peut-être à Rennes la semaine prochaine. Mais Brest qui a besoin de reparler football. Je regarde beaucoup les commentaires là après le match. Il y a beaucoup de gens qui estiment comme nous tout à l'heure que Brest oublie un peu de jouer au football et s'en prend un peu trop à l'arbitrage et à la paranoïa de l'arbitrage. Ils ont été lésés à de nombreuses reprises. Maintenant, il faut vraiment qu'ils se reconcentrent sur le football pour bien terminer la saison.
Ce sentiment d'injustice est très difficile à évacuer par moment.
Sûr.
Surtout quand tu as vécu la soirée qu'ils ont vécu les Brestois qui étaient folles à Lyon.
Il y en a eu plusieurs. Il faut reconnaître qu'ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage. Reconcentrez-vous, chers Brestois, sur le football et tout ira bien d'ici la fin de la saison. Brest jouera une belle Coupe d'Europe la saison prochaine. On revient au Parc, c'est reparti, Nicolas Jean-Géraud. Entre Paris et Lyon, 4-1 pour le PSG. Est-ce que le festival va continuer? On le souhaite. Souvent, en seconde période, quand c'est comme ça, ça tombe un peu.
Il y a eu un changement côté lyonnais avec la sortie de Benrahma et l'entrée de Clinton Mata. Et donc, on a un Noël qui est en 5-4-1. Évidemment, pour avoir un petit peu plus de densité après avoir pris l'eau en première période, notamment sur certaines séquences.
Un mauvais choix de Pierre Sage, ça arrive, hein, il en a fait beaucoup des bons depuis sa prise de fonction. Ouais. Bah là, aujourd'hui, il s'est trompé.
En plus, on l'évoquait, Nico, il aime vraiment que très peu commencer dans ce système-là. Avec Cherki en 10, il préfère vraiment avoir 3 travailleurs au milieu de terrain et ensuite s'adapter et faire évoluer son animation. Là, c'était un vrai choix optimiste, un petit peu trop.
L'enflammade, comme disaient certains confrères tout à l'heure, dont on taira le nom, mais en tout cas qui nous promettait un match offensif et spectaculaire. On l'a eu, attention, le ballon est avec Cherki, c'est bien fait là pour décaler côté gauche. Ah, dommage, il y avait Colomani qui traînait, il récupère le second ballon, le centre de Cherki, Donnarumma qui se couche sur ce centre de Ryan Cherki. La casette était tout proche de reprendre ce ballon si Donnarumma n'avait pas pu le capter. Il était à l'affût, le général, et avec Colomani. Et maintenant ce ballon pour les Parisiens, Asensio qui remonte un petit peu le terrain. 48e minute, 4-1 pour le PSG face à Lyon, avec donc un avantage confortable pour le Paris Saint-Germain. Ce ballon pour de Marquinhos pour trouver Colomani.
Il y a encore une paire de balles de Colomani d'ailleurs sur l'occasion lyonnaise, c'est encore sur un contrôle, encore sur une prise de balle qui paraît anodine. Il est vraiment en dessous des autres. Moi, hors de question de le critiquer comme ça gratuitement, mais là, ça commence à être extrêmement problématique.
Alors qu'il récupère le ballon, pourtant, c'est-à-dire qu'il fait quand même une tâche défensive.
Oui, tout à fait.
Cherki à la balle, il perd le ballon et Colomani n'arrive pas à l'exploiter. Et finalement, ça redevient un ballon lyonnais et une deuxième chance et qui se termine par ce centre de Cherki pour essayer de trouver la casette. Il y avait de l'idée avec cette touche là-bas jouée par les Parisiens, par Hakimi sur ce côté droit, Colomani qui s'est rendu disponible, qui se met dans le sens du but. C'est bien fait ça, l'accélération de l'ancien joueur de Nantes pour trouver notamment Ramos qui est dans un contrôle difficile mais qui n'a pas perdu la balle et qui est resté, qui a donné ce ballon un petit peu derrière Barcola là avec Beraldo. On s'est pas compris, mais sur la course défensive, il récupère la balle justement, l'ancien lyonnais Vitinha qui a la balle avec Zaïre Emery du bout du pied pour donner à Colomani. C'est bien fait, Colomani là qui résiste aux assauts notamment de Kalaitachar. C'était bien avec Hakimi, ce ballon qui est sur la droite de l'attaque parisienne. On revient dans l'axe avec Vitinha, avec Asensio pour donner ce ballon à Beraldo. qui est parfois assez offensif, puisque sur l'action précédente il était vraiment 5 mètres devant la surface de réparation. Zaïre Emery pour trouver Hakimi, Colomani maintenant qui va solliciter Hakimi pour le 1-2. Il est en train de partir dans le dos de la défense. Hakimi sur un second ballon qui va centrer, ce ballon qui passe devant tout le monde, la tête de Clinton Nomata, le ballon qui revient, c'est dégagé une nouvelle fois de la tête par O'Brien. Il s'est jeté en avant l'Irlandais, le ballon qui a été dégagé, ça va revenir dans les pieds de Vitinha avec Asensio. On est reparti, on est à la 50e, toujours 4-1, et avec des Parisiens à l'attaque.
Il ne passe pas grand chose hein, quand même. Du côté de Lyon, c'est une équipe qui joue le maintien. Hein. C'est-à-dire que les lignes elles sont assez claires, elles sont très limpides. Et c'est dommage parce que là, il y a 4-1, justement, il faut tout tenter. Quoi. Ça sert à rien de préserver le score là, du côté de Lyon.
En fait, les deux schémas, on aurait pu les inverser, commencer en 5-4-1 et avoir un schéma plus offensif sur la seconde. Voilà, sur le décalage est fait avec Hakimi qui est passé le centre. Ah, il a poussé trop loin son ballon. Derrière, il est obligé de tacler pour centrer. Ce ballon est touché par un Lyonnais. Ça devient un corner pour le Paris Saint-Germain sur ce côté droit là-bas avec Asensio qui va aller le frapper. Il y a une position de jouer à deux avec notamment Barcola. Il y a Hakimi qui est à l'entrée de la surface de réparation qui demande le ballon. On va pas lui donner. On a joué avec Barcola en deux temps et avec ce ballon qui va revenir à Vitinha qui va centrer avec son pied droit. Oula, Matic qui fait un amorti de la poitrine pour réceptionner cette balle. C'était assez dangereux. Zaïre Emery a récupéré la balle. Beraldo, la frappe de Beraldo. Frappe enroulée complètement un peu dévissée.
C'est surtout pas une zone où il doit faire ça, Matic. Parce que moi j'aime bien, je suis friand de ce genre de geste parce qu'il veut faire une passe en fait de la poitrine.
Ouais, avec, en mettant... Il est trop facile.
Non, mais c'est vrai. Mais là, dans ta propre surface de réparation, en plus, t'as le joueur qui perd un peu ses appuis, c'est quand même très très osé quoi. Bon.
Ethan, Yoram, Warren, c'est You avec évidemment l'avenir appartient au Titi pour cette banderole dans le virage Auteuil avec Cacré qui a récupéré la balle là devant les Parisiens qui va remettre derrière. Fallait pas se tromper, il y avait notamment Zaïre Emery qui était à l'affût pour couper la trajectoire de la passe à un moment donné. Ça pouvait être dangereux mais il s'est pas trompé. Et avec ce ballon dans le couloir pour essayer de trouver Nouama, il ne va pas être servi. Ce sera notamment, il y avait plusieurs Parisiens, mais Danilo qui était là et qui a récupéré la balle. Vitinha pour peut-être passer la médiane, donner ce ballon à Marquinhos surtout, et qui va donner ce ballon à droite pour trouver Hakimi, Colomani qui est là avec ce Paris Saint-Germain qui plonge avec Zaïre Emery dans le dos de la défense lyonnaise. Le crochet de Zaïre Emery, le centre de Zaïre Emery, second poteau pour essayer de trouver Barcola, le ballon qui est toujours au 5m50, les Lyonnais qui ont du mal à le dégager. Ça va revenir juste devant la surface de réparation. Belle bataille là avec notamment Vitinha, Beraldo ou encore Nouama qui a essayé de récupérer cette balle. Vitinha pour donner dans l'axe à Ramos qui frappe et ce ballon est bien capté par Rodrigo Lopez. Oh, et la belle frappe du Portugais, très sèche, instantanée sur un pivot et qui a mis ce ballon dans une position assez axiale.
Là, c'est en 9 en confiance qui a mis un doublé et
complètement.
Qui frappe, quoi. Il cherche même pas s'il y a... Après, là, c'est bien joué, hein, mais il cherche pas s'il y a une solution ou pas, quoi.
Ce genre de prise de balle, là, comme ça, un peu en roulette, là, c'est fabuleux. J'ai du mal à juger Gonçalo Ramos dos au but, en fait. Vraiment dans le jeu, en 9, un petit peu reculé. Évidemment, quand il est face au but et dans des conditions optimales, c'est un numéro 9 de grand talent, mais j'arrive pas à avoir une opinion vraiment. Assez concrète de ce qu'il peut donner quand il est un peu loin des buts justement Gonçalo Ramos.
Mais il sollicite pas beaucoup ses partenaires, c'est pas quelqu'un qui combine beaucoup.
Non, il décroche pas beaucoup. Ouais.
On voit plutôt d'ailleurs Asensio s'il est dans ce rôle là ce soir, c'est aussi pour créer ce lion. Attention d'abord avec Maitland Niles là, qui va percuter face à Beraldo et Maitland Niles il va vous donner à la casette. Second ballon avec Enrique qui est par là avec aussi Matic. Planax, le ballon est fort là pour Nouama pour contrôler. Néanmoins ça revient avec Enrique. Danilo là il met un grand coup de pied dans le ballon pour écarter le danger, permettre à tout le monde aux Parisiens de reprendre un peu à la fois ses esprits et ses positions et de remonter d'un cran. Mais oui en fait autant il y a beaucoup de joueurs parisiens qui parfois n'ont pas marqué beaucoup. Je pense à Dembélé par exemple, même si ça va mieux depuis quelques temps, mais qui ont donné beaucoup de passes ici. Attention avec Barcola qui efface. Oh là, le très bon débordement et la très bonne accélération de Barcola. Alors derrière il veut centrer ou alors c'est une frappe croisée. c'est un peu ni l'un ni l'autre et c'est... ça passe devant tout
c'est
le monde.
C'est vraiment une anguille ce joueur.
Il fait quand même des
parce que il, non mais il est à la fois fin, puissant, rapide. Il, ah, ouais.
Il est félin. Je dirais pas une anguille, mais c'est un.
Non mais je le trouve félin. Insaisissable en fait. Quand tu, tu défends, tu sais pas. Oui, tu vois, c'est pour ça que je parle d'anguille, c'est que tu, il a des mouvements, il est un peu élastique en plus, tu sais pas trop ce qu'il fait parfois avec son corps, et t'as l'impression que tu sais pas comment le prendre.
C'est exactement ça. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a une vraie maîtrise de son corps pour le coup. Il a
attention Noama face à Marquinhos, ce ballon retrait pour retrouver la frappe et l'arrêt. Oh, l'arrêt sur la frappe de Cherki, l'arrêt de Donnarumma, parce qu'il est arrivé lancé, la frappe était assez forte, même si la place peut-être pas comme il le souhaite. Cherki, mais Donnarumma, en tout cas, il a détourné ce ballon au corner. C'est un corner pour l'OL, belle réaction des Lyonnais. On rappelle le score, toujours 4-1. On joue depuis 55 minutes. On a joué rapidement ce corner avec Kakré qui n'a pas centré. Pourtant, il a levé la tête avec Matic, lui qui centre second poteau. Le ballon qui est prolongé de la tête. Ouais, la casette un peu passif. Au moment où ce ballon lui arrive dessus, là, il a vu le ballon ricocher sur le sommet du crâne, mais sans pouvoir vraiment intervenir sur cette balle. Noama avec Matic pour donner ce ballon à Lacazette. Lacazette dans un angle fermé qui centre fort. Ça arrive au second poteau. Ah, Cherki n'était pas au second poteau. Ça passe devant Marquinhos. Il y avait position de hors-jeu sur le débordement de Lacazette. Ils ont attendu la fin de l'action, mais sur le débordement de Lacazette qui n'a pas trop d'autre solution que de frapper. Au second poteau pour trouver Cherki.
Pour revenir à Barcola, c'est vrai que le côté insaisissable, il est assez impressionnant. Je trouve que par moment, puis pour un défenseur, c'est horrible quand tu joues face à lui parce que tu as le sentiment que tu vas pouvoir récupérer. En fait, il a de longues jambes aussi, donc il arrive toujours à faire la foulée qu'il faut et à toucher le ballon juste avant. Il a toujours cette capacité-là.
C'est tout l'inverse de ce que je disais tout à l'heure là, quand on parlait des appuis de Zaïre Emery, c'est-à-dire d'avoir un centre de gravité très bas. Lui, c'est très délié.
On dirait qu'il touche pas le sol.
Ouais, c'est ça. Ou alors il est sur la pointe des pieds.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait, le travail de Zaïre Emery, c'est essayer de garder un centre de gravité bas, un peu façon Messi, c'est-à-dire des appuis très courts, mais avec de la puissance et avoir une bonne conduite de balle tout en ayant cette puissance. Alors que, comment dire, effectivement, Barcola, c'est, tu sais pas trop, même avec le haut du corps, si ça allait à gauche, à droite, mais il arrive à avoir, dans un autre style, une conduite de balle assez... assez déroutante.
Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il fait toujours cet effort. S'il perd le ballon sur une mauvaise prise de balle orientée ou quelque chose, il fait toujours l'effort de repli défensif aussitôt et naturellement. C'est-à-dire qu'il a, il a aussi du volume, il travaille aussi beaucoup, je trouve, pour le collectif. Et bon, il y a beaucoup d'experts et de grands consultants qui ont été très critiques à son égard. Moi, j'ai du mal à le comprendre parce que je trouve que c'est un joueur qui a toutes les qualités pour exploser vraiment au très haut niveau.
Mais c'est ce qu'il est en train de faire. À Lyon, il fait une seconde partie de saison. Il fait 6 mois de très grande qualité avec une très belle complicité avec Alexandre Lacazette, d'ailleurs ici présent. Et confirmé au Paris Saint-Germain.
Attention, on va mettre le centre. Oh, ça passe au-dessus d'Alexandre Lacazette. Le centre est trop fort de Maitland-Niles là. Mais ils ont eu plusieurs situations, les Lyonnais, qui étaient dangereuses. Là, c'est Hakimi qui sonne la contre-attaque. Colomoigny qui est servi dans le couloir. Mais il va remiser pour trouver Zaïre Emery. On joue la 58e, bientôt l'heure de jeu. 4-1, toujours le score n'a pas bougé. 4-1 en faveur du Paris Saint-Germain face à l'OL. Mais disons que les actions sont plus nettes et mieux construites côté lyonnais que par rapport à la première période. Il y a des transmissions qui sont plus justes, plus efficaces. Et puis surtout, quand on est dans les 20 derniers mètres, c'est mieux construit pour porter le danger sur le but de Donnarumma.
T'as quand même l'impression que, alors c'est vrai qu'ils arrivent à créer du danger les Lyonnais, mais t'as l'impression que le PSG accélère quand il veut. Et autant ils acceptent de concéder, autant t'as l'impression qu'ils peuvent faire mal quasiment quand ils veulent, quoi.
En contre, c'est très impressionnant.
Moi, ce que j'aime bien là sur l'attitude des Parisiens, c'est qu'ils font l'effort pour récupérer le ballon vite. On voit le pressing qui est déclenché pour récupérer le ballon très vite et très haut. Il y a 4 ans, il pourrait être
c'est plus présent sur cette période d'ailleurs, parce qu'en première, ça l'était moins, mais c'est plus présent.
Je trouve que ça l'est là, c'est assez lisible.
Alors, avec Marquinhos pour écarter sur Hakimi, oui, mais par exemple, sur le centre de Maitland-Niles, bon, le centre est trop fort, mais le ballon il peut très bien arriver sur la tête de Lacazette. C'est pas incongru de le voir ce ballon arriver, c'est pas un geste complètement dingue. Et finalement ils avaient laissé vraiment cette opportunité les Parisiens et les Lyonnais auraient pu le
franchement j'ai mal pour Colomoigny, quoi. Il semble tellement pas à sa place, c'est presque hyper sévère ce que je dis, mais t'as l'impression que c'est vraiment l'intrus, quoi.
Ah, mais c'est exactement ça,
c'est alors
c'est fou, quoi.
Et c'est, ce qui est terrifiant, c'est que, alors qu'ils fassent pas des bons matchs, etc., mais en fait, la base n'est même pas là. C'est-à-dire simplement des contrôles, des passes de qualité.
N'est pas là en ce moment, parce que c'est un joueur qui a de la qualité quand même.
Mais bien sûr, c'est ce qu'on a dit.
Il n'en est pas, mais.
Et évidemment.
Mais c'est vrai que c'est terrible, quoi.
Il y a rien qui va.
Entre le manque de confiance et tout le reste, c'est.
En début de saison, et parfois, il arrive à marquer des buts, enfin, qui étaient très simples, c'est-à-dire qu'il était là au bon moment, ce qui est aussi une qualité, mais statistiquement, disons qu'il était. Il était un peu là, et moi je pensais que ses buts justement allaient lui donner un petit peu de confiance pour pouvoir s'exprimer et montrer toute l'ampleur de son talent, mais c'est vrai que c'est vraiment pas qu'à après.
À,
voilà.
À court terme, Nicolas, on voit pas de solution pour lui à Paris. Alors ce sera peut-être l'année prochaine le déclic, j'en sais rien, mais là à court terme, je vois pas comment d'ici la fin de saison, d'un seul coup, ça pourrait se débloquer en fait.
Il y aura, non, oui, c'est sûr. Après, il y aura une autre saison de, j'allais dire, pour voir. Mais après, il faudra, si la saison prochaine est du même acabit,
ah oui, bah,
c'est pas possible de puisse rester avec le ballon là qui n'arrivera pas à la casette, la tête d'Hakimi, tête défensive pour mettre ce ballon dans les bras de Donnarumma. Mais oui, surtout que l'équation là où elle peut changer, c'est que même si donc il y a un départ de Kylian Mbappé qui sera compensé par l'arrivée d'une tête d'affiche, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rôle offensif de premier plan et qu'il faudra aussi l'assumer. C'est-à-dire que, entre guillemets, j'allais dire, il ne pourra pas se cacher. Il sera peut-être même encore plus mis dans la lumière. Donc il y a quand même des choses aussi qu'il va devoir assumer la saison prochaine. Mais pour l'instant, dans ce qui a été construit ou tenté d'être construit dans la relation offensive, il a du mal. Parce qu'autant Ramos, peut-être qu'il a une palette moins large que lui. Ramos c'est plus utile, en tout cas plus efficace, ça dépend le mot qu'on met, mais Colomani apporte peu de choses. S'il ne fait pas un déboulé pour marquer un but sur une contre-attaque, il n'y a pas grand chose qui se passe.
Il y a aussi une chose, c'est que Ramos, tu sais où le situer. Tu sais que Gonzalo Ramos c'est un 9. Randal Colomani, ouais. Là où
il y a toujours débat entre 9, voilà. Joueur de côté.
Là où tu es un peu gêné aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas vraiment là où il pourrait s'exprimer le mieux en fait. C'est
comme en équipe de France, hein,
c'est ça.
Didier Deschamps l'a voulu fixer au début de juste post-Coupe du Monde, ce poste de numéro 9. Hein, il a commencé. Et puis finalement, il touche très très peu de ballons, donc on l'a mis sur le côté pour qu'il en retouche un petit peu plus et qu'il joue un peu sur sa vitesse. Mais il est un peu travaillé entre ces deux postes.
L'ordre de jeu.
L'ordre de jeu, ouais, coup franc, il y a Vitinha et Hakimi. Alors on est à. On est à 28-29 mètres, mais bon,
c'est pour Juninho, ça.
Ça peut plonger et ça peut être dangereux.
Hakimi peut frapper.
Avec Hakimi qui a joué court avec Barcola. Barcola qui est quasiment en position de 1 contre 1. On vient l'aider, Barcola qui est dans la phase de réparation. Frappe. Et ce ballon est sur Anthony Lopez. Quelle mais ils avaient joué sur le fait que Barcola soit seul et qu'il puisse jouer le 1 contre 1 et aller défier son vis-à-vis.
Avec son petit coup de rein, il a fait mal à deux Lyonnais, mais il s'est fait mal à lui aussi. Et je pense qu'il a senti un petit.
Il s'est auto-dribblé.
Ouais, il a touché le bas de son dos. Je pense que sur le coup de rein, il a même un peu surpris son corps au-delà des deux Lyonnais qu'il a embarqué pour entrer dans la surface. 4-1 pour le Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais. 62 minutes de jeu au Parc. Courte pause, retour d'RTL Foot. On est ensemble jusqu'à 23h.
RTL Foot, présenté par Eric Silvestro. Suivez votre soirée foot sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL. Chaque matin à 8h50.
Bonjour Pierre Arditi, vous avez l'air remonté.
Non mais y a de quoi. Depuis ce matin, on nous beurre l'arrêt avec la flamme olympique. Ça n'a pas commencé qu'on a déjà ras-le-bol des JO et de cette flamme. On s'en fout. Mais qu'elle reste chez les Grecs, cette flamme. Qu'elle reste chez les Grecs pour faire griller des poulpes et allumer le barbecue d'Yves Calvi.
Retrouvez le sourire avec Laurent Gérard. RTL Foot. Avec Eric Silvestro.
Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avant que vous retrouviez Caroline Dublanche pour Parlons-nous à partir de 23h 09 69 39 10 11 pour discuter avec Caroline après ce PSG Lyon.
Oh, Cherki, oh, il a peut-être touché le ballon de la main. Il y a toujours cette balle dans la surface de réparation. L'OL qui pousse avec Cacré. Oh, qui a effacé Colomani. Cacré qui entre dans cette surface de réparation. Le ballon qui est mis en corner. L'OL pousse depuis 3-4 actions et il y a eu notamment une frappe quasiment à bout portant de Maxence Cacré qui était très forte, très puissante. Alors elle était sur Donnarumma qui, je dis ça pour atténuer peut-être un peu la, l'arrêt spectaculaire de Donnarumma, mais néanmoins il fallait quand même le détourner sur Cacré qui était quasiment seul à 6 mètres et qui a frappé sur Donnarumma. Le corner de l'OL, la tête de Vitinha pour écarter le danger au moment où Orban et Tolisso vont entrer dans quelques instants.
Le pressing de Barcola,
c'est la vitesse à lui tout seul. Il est tout seul face à deux Lyonnais. Il va les rendre complètement fous et les faire paniquer. Ils sont obligés de ressortir.
Allez, avec Marquinhos qui contrôle cette balle, cette gestion du rythme de la rencontre, les Parisiens, Vitinha, Asensio, toujours 4-1. Il reste 25 minutes dans ce match. Il y a un large succès parisien qui se dessine, même si les Lyonnais sont beaucoup plus mordants dans cette seconde période, avec, on le disait, des actions qui sont mieux construites. Zaïre Emery face à Lacazette, il n'a pas perdu la balle, il a mis ce ballon derrière. Marquinhos avec Vitinha, il y a toujours Orban et Tolisso qui patiente avant d'entrer avec le ballon décalé à gauche à Barcola. C'est bien fait, Barcola qui remet à Beraldo. Le centre de Beraldo a été touché par un Lyonnais, il ne va pas arriver à Gonçalo Ramos, et c'est même une récupération. Cherki, très bon coup d'œil pour ouvrir sur Nouama, la vitesse, Beraldo à la course qui est devant Nouama et qui va être bon pour récupérer cette balle. Bon placement et belle anticipation du Brésilien, et qui relance avec Danilo, et c'est Skriniar qui va entrer il y aura même un changement. Barcola a demandé à sortir à Luis Enrique en passant le long de la zone technique, et Luis Enrique tout de suite a fait signe d'aller chercher quelqu'un. Barcola va sortir, Skriniar va entrer. Il y aura un deuxième changement parisien, puisque c'est peut-être un petit peu plus sérieux, ou en tout cas il ne veut pas prendre de risque, Barcola, sur tout à l'heure le mouvement au niveau du dos. Il a fait signe aux côtes, sur le côté, Barcola, sur ce mouvement. En tout cas, il vient de dire à Luis Enrique qu'il voulait sortir. Et avec le ballon d'Hakimi là-bas sur le côté droit pour trouver Colomani qui va défier son vis-à-vis, mettre ce ballon derrière avec maintenant Zaïre Emery. On est à l'angle de la surface, on change le jeu, trouver Beraldo là-bas. Le contrôle du Brésilien est bon. Barcola, peut-être pour l'une de ses dernières actions, qui est sur ce côté gauche, qui ne va pas tellement percuter, qui va essayer surtout de donner ce ballon à Asensio. Il fait quand même l'effort défensif avec ses grands compas. Il récupère la balle. On est en fait le contour du Lyonnais avec maintenant Zaïre Emery. Cette succession de 1-2, c'est bien fait ça. Ah ouais, Colomani, le ballon est pas assez fort pour retrouver Zaïre Emery ou trouver Hakimi. Mais dans un petit périmètre, là, les Parisiens ont régalé dans les touches de balle. On va procéder au changement des deux côtés. Avec, je vous disais d'abord, avec aussi Tolisso et Orban qui vont entrer. Et c'est Séni Mayoulou qui va entrer. Alors d'abord, Lacazette d'abord qui sort pour Orban.
Le parc debout pour Marquinhos. Hein.
Ah, il faut qu'il ait le temps d'aller se changer pour la cérémonie, ouais, tout oui. Ça. Donc là, il a le droit d'aller à la douche et de ne pas rester avec ses partenaires.
Ouais, il donne
pour pouvoir célébrer proprement et faire de belles photos.
Allez, avec d'un côté. Allez, le capitaine parisien qui laisse sa place à Skriniar, qui va retrouver un petit peu de temps de jeu après sa blessure, et Barcola donc qui a demandé à sortir. Et avec Séni Mayoulou qui entre, qui a déjà été double buteur avec le Paris Saint-Germain, que ce soit en coupe ou en championnat, lui aussi promis un bel avenir.
Je l'aime bien, hein, je trouve qu'il a quelque chose. Lui.
Oui.
Oui, très bon milieu de terrain, ouais, aussi. Ouais. C'est moins flagrant que Zaïre Emery en termes, oui, de talent pur, mais
il a quelque chose. Hein.
Il a vraiment quelque chose.
Il a quelque chose.
C'était le leader aussi des U19 dans l'entrejeu, et il était prépondérant pour le système de Zoumana Camara qui entraîne cette équipe du jeune du PSG.
Beaucoup plus de. Il est très très bon dans la lucidité sur le dernier geste.
Offensif aussi.
C'est ça, plus offensif. Et
les deux pieds déjà. Quand on a les deux pieds déjà, on gagne un peu de temps en général.
Une efficacité et une lucidité dans le dernier geste qui est quand même assez bluffante à son âge aussi. Et donc Mayoulou qui est entré.
Côté lyonnais, tu m'as dit qui, Nico ?
Orban et Tolisso.
Est-ce que Kylian Mbappé s'échauffe, Nicolas, pendant ce temps ou pas du tout ?
À la cave, là, Mbappé.
Oh. Non, on sait rien.
Au frigo.
Il y a Carlos Soler, si vous voulez.
Ah ouais, ça c'est important, c'est toujours important de le dire.
pour du spectacle, si vous voulez.
Bien sûr.
Là, tu lui mets le film alimentaire là, hop, entouré partout et au frais.
Ouais, mais je pense qu'il jouera Lorient un peu, peut-être pas titulaire, mais à une semaine.
C'est Mbappé.
Ouais.
Ah bah Lorient, il va jouer titulaire quand même, non?
D'avoir, ouais, mais.
Bah, ou Lorient ou Le Havre, il faut qu'il fasse un match titulaire quand même. Il va pas ne pas jouer du tout avant Dortmund.
Ouais, mais je sais pas. Je serais pas étonné qu'il joue qu'une mi-temps, par exemple, à Lorient.
Ouais, alors après attention, hein, parce que c'est un garçon qui a besoin de toucher le ballon, de courir, de. Enfin, tu vois, il a besoin de rythme aussi.
Attention.
Non, mais qui joue qu'un match éventuellement par semaine avant Dortmund, d'accord, mais qui joue quand même.
C'est la même chose pour Dembélé, hein. Ça sera
Il joue, bien sûr.
Tout à fait.
Pour Dembélé, d'avoir du temps de jeu à Lorient, peut-être pas une bonne nouvelle pour les Lorientais d'ailleurs. Et avec,
Lorient relégable, hein. Lorient relégable avec 26 points, Le Havre barragiste avec 28, et Metz sorti de la zone à 29 après sa victoire au Havre.
Allez Danilo, pour donner à Vitinha, on est à 20 minutes de la fin de cette rencontre, toujours 4 buts à 1 en faveur du Paris Saint-Germain avec les buts de Matic à la 3ème contre son camp, la 6ème Beraldo, doublé de Ramos, 33ème, 43ème et Nouama à la 37ème qui avait mis ce but lyonnais. Ça navigue entre Danilo et Skriniar là, qui s'est fait un petit peu gêner par Tolisso, c'est bien fait ça, le champion du monde 2018 qui gêne un petit peu. Ah, il a fait faute, un petit peu trop d'entrain là, et M. Le Texi a sifflé sur eh bien, la faute de Tolisso. Ça va donner un coup franc pour les Parisiens.
Alors il n'est pas dans le frigo ni à la cave, mais
tu peux avoir.
Il a à peu près 8 couches, 2 capuches, un bonnet. Ouais. Je pense pas qu'il enlève quoi que ce soit.
Il n'a pas prévu de rentrer là.
Bah, contre Clermont, c'était déjà ça, c'est-à-dire pas prévu forcément, mais comme Paris Saint-Germain perdait, il était entré en jeu. En fait, je regardais, la dernière fois qu'il a joué 90 minutes en championnat, c'était à Montpellier, le fameux 6-2, mais c'était c'était le 17 mars. C'était il y a un mois. Sinon, les derniers matchs, c'était.
Il a toujours 7 buts d'avance au classement des buteurs, donc peut voir venir.
À Marseille, il était titulaire, mais il est sorti à la 65e. Contre Clermont, il était remplaçant, il a joué 25 minutes. Donc il y avait toujours cette gestion.
C'est une bonne nouvelle pour l'Euro et les JO, ça, il pourra jouer les deux, il sera frais.
Bah non, mais alors vous rigolez, mais il y en a un qui surveille la situation de très près, c'est Didier Deschamps, parce que. Évidemment qu'il a en tête le souvenir d'un Griezmann qui a gagné la Ligue Europa en 2018, mais qui tirait la langue à la Coupe du Monde. Il faut se souvenir qu'il avait joué une heure contre l'Australie en ouverture du Mondial, puis 70 minutes. Il y a eu beaucoup de mal. Fekir a eu beaucoup de temps de jeu, notamment sur la phase de groupe de la Coupe du Monde, parce qu'il fallait laisser Griezmann reprendre un second souffle. Il était totalement cramé. Et N'Golo Kanté en 2021, c'est-à-dire qu'il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea et Giroud. Kanté était éblouissant en demi-finale et en finale, et il fait un euro où il tire la langue, et il avait beaucoup de mal au milieu de terrain. Donc, et en plus là je prends deux exemples de joueurs qui sont allés donc gagner une Coupe d'Europe au fin fond de la saison, mais en plus qui l'ont gagné, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu à gérer la déception d'être passé à côté. Donc c'est évident que j'allais pas dire que Didier Deschamps, en tout cas publiquement, dira jamais qu'il vaudrait mieux que le PSG sorte en demi, mais en tout cas s'il y a une finale PSG Real avec les conséquences psychologiques ou physiques qu'il y aura à tout ça, c'est loin d'être neutre. Et ce sera à gérer pour le staff de l'équipe de France en vue de l'Euro.
Et pour parler des internationaux français et de ce potentiel PSG Real, il y a aussi Tchouaméni et Camavinga, évidemment, du côté de Madrid, qui sont bien titulaires, hein, face au Barça, et qui gambadent là depuis 64 minutes, toujours un partout d'ailleurs entre les deux clubs espagnols.
Mais c'est pour ça qu'il est ravi d'ailleurs de ce que fait Luis Enrique, hein, de gérer le temps de jeu, c'est parfait. De gérer le temps de jeu d'Mbappé. D'ailleurs, lors du dernier rassemblement, Deschamps lui a dit qu'il fallait en gros. Avoir un peu plus de recul par rapport à ça, et que c'était peut-être un mal pour un bien, mais c'est clair que c'est un moment qui est peut-être crucial pour Mbappé en vue de la fin de saison et du temps de jeu qui va s'accumuler. Là il reste 9 matchs pour le Paris Saint-Germain, 10 s'il y a une finale de Ligue des Champions. Les autres clubs français, hormis si l'OM va lui aussi au bout dans sa Coupe d'Europe, sinon c'est 5, c'est la moitié, donc ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Allez, Hakimi qui va donner ce ballon à droite. Il n'y a pas eu d'action dangereuse. 4 buts à 1. Il reste 17 minutes avec notamment le virage Auteuil, mais aussi une bonne partie du parc qui chante. Hakimi qui était en train de s'infiltrer entre les lignes lyonnaises et qui voulait entrer dans la surface de réparation. Danilo qui va mettre ce ballon derrière là.
Un cadeau.
À Donnarumma qui va reculer pour aller prendre la balle, mais sur une passe en relance, ils ont effacé Cherki et Urban. Et le ballon qui va remontée avec Asensio, avec Vitinha. Sachant dans les rangs parisiens, évidemment, on voit à la fois la victoire qui se dessine, et une victoire facile finalement. Peut-être pas dans un drôle de match, mais en tout cas dans un match qui s'est décanté de façon assez, assez drôle. Sur les 6 premières minutes, déjà 2 buts parisiens, un but contre son corps de Matic et le but de Beraldo à la suite d'un corner. C'est vrai qu'il a lancé évidemment cette rencontre de la meilleure des façons pour un PSG remanié. Un 11 retouché par Luis Enrique, mais qui n'a pas eu à fournir énormément d'efforts pour mener. Et ça, pour Luis Enrique, c'est évidemment un motif de satisfaction. Le ballon dans les pieds de Skriniar. Les Lyonnais qui sont très regroupés dans ce 5-4-1 avec quand même Cacré là, qui va essayer de gêner et qui parle aussi à ses coéquipiers pour dire qu'il faut un petit peu monter, un peu gêner les uns les autres. Mais pour l'instant, ce PSG là, il n'est pas du tout inquiété et il contrôle bien ce rythme avec Vitinha, avec Zaïre Emery qui a été touché entre les lignes et qui porte le danger maintenant, qui a fait 20 mètres, qui a porté le ballon avec Hakimi qui centre fort. Oh, ce ballon avec Ramos qui était pas loin de le reprendre, et avec Mayulu au second poteau qui a ensuite tenté de recentrer, mais c'était pas évident, le langue était extrêmement fermé. Et là, ça va être Orban avec le ballon, Danilo qui est en train de se replier, Skriniar aussi, Cherki qui lève les bras au ciel, il est tout seul au second poteau, il ne l'a pas vu. Ah, Cherki s'assoit avec l'arrêt de Donnarumma sur l'attaquant lyonnais qui s'est emballé, qui s'est enfermé dans l'angle.
C'est Orban dans toute sa splendeur.
Cherki n'en revient pas. Je le regarde là-bas, il n'en revient pas, il regarde son partenaire, il s'est même assis au moment où Orban était en train de s'enferrer. Et il était sur les fesses, Cherki, là. Il n'a pas compris alors qu'il levait, pendant sa course, il levait les deux bras en demandant le ballon. Mais Orban est vraiment est bien resté dans ce couloir droit là et à s'enfoncer. Alors Maitland-Niles va sortir. Il va avoir deux entrées. Il y a Baldé notamment qui rentre. Je pense à la place de Cherki peut-être. C'est un peu brouillon.
Et Fofana qui va entrer aussi.
Ouais, Fofana et Baldé pour les entrants, mais pour l'instant, j'ai pas vu qu'il sortait.
On dirait vraiment un enfant là, on a vu un plan de lui serré, c'est un enfant.
Voilà, alors il y a aussi des changements côté parisien avec Moukielé et Soler. Voilà. On va voir une étoile qui va arriver sur le terrain.
On le craignait que ça baisse quand même en seconde période. Alors on a eu pas mal de situations, hein. Le match est resté ouvert, mais voilà, il y a moins de folie, plus de contrôle quoi.
Baldé à la place de Cherki et donc Fofana à la place de Maitland-Niles. Voilà pour les changements lyonnais. Et Zaïre Emery qui sort, qui a aussi beaucoup donné. On va gérer les temps de jeu, ainsi que Hakimi qui sort donc pour les entrées de Moukielé et de Soler. Voilà, un peu.
C'est une soirée parfaite.
Ah, pour le PSG, c'est une soirée parfaite. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts à faire, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et il n'y a pas eu par exemple à courir après. On a eu quand même pas mal de fois, que ce soit cette année ou la saison dernière, des matchs où le PSG, notamment après des matchs de Ligue des Champions en décompression, qui a dû batailler après des scores défavorables, à remonter en championnat des 1-0, des matchs nuls, essayer de forcer la décision. Et là, il n'y a pas eu ça du tout dans ce match pour les Parisiens. Et donc, Luis Enrique fait tourner. Il y a il y a 3 buts d'avance face à Lyon, 4-1. Attention avec Maitland-Niles, il n'est pas sorti. Attention avec le ballon qui va être centré. La frappe de Cacré, c'est détourné par Danilo. Alors, ils ont annoncé Maitland-Niles de sortie. Et finalement, ils ont changé. Donc, je suis un peu perdu. J'avais vu le 98 s'afficher sur le panneau de l'arbitre, du quatrième arbitre.
On va vérifier ça. Le seul point noir que je vois dans la soirée parisienne, et c'est un peu une mauvaise habitude malheureusement, c'est encore, il faudra voir le nombre de tirs concédés, Nico.
Ah bah oui.
Mais c'est assez énorme. Hein, parce que certes, il mène 4-1, il maîtrise le match et tout, mais il concède encore un nombre de tirs incroyable.
Là, c'est du côté de Lyon, c'est pas mal. Hein. Il y a 15 tirs en tout.
15 tirs en
tout. Il y a égalité parfaite. Hein. 15 tirs du côté de Lyon, 15 du côté de Paris. Et 6 tirs cadrés de chaque côté eux, bien sûr que c'est
évidemment
beaucoup.
Quand tu mènes 4-1, t'es moins sur les dents défensivement, mais.
Mais c'est pas.
C'est un peu une constante hein, dans ce PSG. Hein.
C'est Fofana qui a remplacé Nouama, Nico.
Oui, c'est ça. Fofana à la place de Nouama et Baldé à la place de Cherki. Mais je voyais Maitland-Niles, ils avaient mis le 98. Maitland-Niles avait même traversé la moitié de terrain pour venir juste à côté. Finalement, il est resté. Et, alors, soit il y a une erreur dans le changement, soit ils se sont ravisés. En tout cas, c'est comme ça le changement qui a été effectué. Il y avait le ballon qui a été récupéré par les Lyonnais parce que Beraldo a relancé dans l'axe. Et avec Baldé là, qui a mis ce ballon encore dans l'axe, on réinsiste peut-être avec lui, mettre en axe qui va mettre à Keïta-Cher là-bas. Et on va aller sur le côté gauche avec notamment Orban ou Kakré qui est dans une position un petit peu plus haute. Fofana qui essaie de se démarquer pour proposer une solution, il n'aura pas le ballon, on revient dans l'axe, peut-être pour changer le jeu, trouver Baldé qui contrôle pied droit pour centrer fort, Beraldo qui a touché cette balle, Mayoulou qui est en position défensive là et qui essaie de ne pas perdre la balle, il fait un petit tour sur lui-même, il a effacé à la fois Baldé et Kakré, attention, il faut donner cette balle, c'est bien fait, il a fait parler sa technique sans s'affoler, donc derrière Beraldo il met dans le couloir mais il n'y a pas de Parisien, même si Ramos peut-être va récupérer la balle, oui il va la récupérer, Mayoulou aussi le long de la ligne de touche. Le ballon derrière le pied d'appui, ça sort, c'est une touche avec Clinton Mata qui la joue avec O'Brien. Il n'y a pas eu de but pour l'instant dans cette seconde période. Il reste 10 minutes, 4-1. Le score était acquis à la pause en faveur du Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas eu de but dans cette seconde période. Clinton Mata qui va peut-être mettre loin devant avec Kakré. Il a essayé de la petite aile de pigeon, en tout cas plutôt de la talonnade de la semelle et c'était bien fait. Il y a eu un choc là avec Orban qui essaie de récupérer la balle. Beraldo maintenant, Solaire. Et Monsieur Le Texier qui intervient, Danilo qui rouspète après Monsieur Le Texier parce qu'il dit qu'il y avait une faute sur lui de la part de Baldé et qu'il aurait dû la siffler. Pas. Et Monsieur Le Texier n'est pas intervenu.
Bon. Pas de but au Parc, tu disais, depuis la reprise. En revanche, but du côté de Santiago Bernabéu. C'est le Barça qui mène 2-1 et au moment où on est en train d'annoncer cela, le Real vient d'égaliser par l'intermédiaire de Lucas Vázquez. Fermín López, il y a quelques minutes, simplement était venu à permettre au Barça de mener 2-1 et sur le contre à l'instant, c'est Lucas Vázquez qui avait déjà obtenu le penalty en première période pour le Real Madrid qui vient permettre aux Merengues de revenir à hauteur. 2-2 entre le Real et le Barça.
Elle semble toujours insubmersible aussi cette équipe du Real parce que là franchement elle se fait bouger par Barcelone et puis il y a aussi de la fatigue du côté du Real et puis il y a cette demi-finale de Ligue des Champions, le titre, ils ont de l'avance quand même contre le Barça mais tu sens et en plus la réaction de Fermín comme tu as dit qui ça a dû tellement les vexer que derrière ils ont dit ah ouais enfin il y a des questions que vous venez gagner quoi. Alors peut-être que Barça gagnera à la fin mais il y a quand même cette mentalité de gagneur.
Pas impérial la charnière centrale du Barça quand même. Hein.
Non, mais
c'est pas non plus.
Après le Real défensivement ils sont pas impérieux non plus hein, mais.
Allez Mayoulou qui récupère le ballon qui va. Il y avait l'idée de trouver Kanginli. Kanginli a remplacé Ramos. Il était en train de partir dans le dos de la défense et Mayoulou sur un dernier appui a voulu donner ce ballon dans la profondeur, ça a été intercepté par Leloni avec Asensio, maintenant à l'entrée de la surface de réparation, Mayoulou qui a été servi, qui remet à l'Espagnol, Asensio ce jeu à deux là sur le côté gauche, il déborde, Mayoulou il centre avec Keïta-Cher qui donne et qui on essaie de relancer avec notamment Baldé dans le couloir avec Orban qui a décroché, poursuivi par Danilo, c'était compliqué là pour lui.
Il faut qu'il la donne, en fait Orban il fait jamais le bon choix, c'est-à-dire que là il contrôle son ballon, il peut en deux touches servir Baldé il a demandé le ballon en profondeur, son contrôle est bien orienté, ensuite il faut qu'il joue plus simple, il a pas besoin de retoucher le ballon.
Mais Orban tu peux être sûr qu'il y a quatre options, il va prendre la cinquième pour être sûr que c'est la mauvaise, c'est-à-dire que c'est affligeant vraiment, c'est à ce niveau-là, c'est affligeant.
Il touche beaucoup trop le ballon, son contrôle est pas mauvais, en plus là il peut la remettre à Baldé et il peut y avoir situation pour Lyon.
Beraldo pour trouver Skriniar, les Parisiens dans la gestion de cette fin de match. 8 minutes encore dans le temps réglementaire et ce score acquis pour l'instant. 4-1 avec les buts de Matic contre son camp, le but de Beraldo, le doublé de Ramos qui a cédé sa place à Kanginli il y a quelques instants et Nwama côté lyonnais. Voilà pour les buteurs et avec Baldé, la palette qui va récupérer, bel effort. Il récupère la balle avant que ça sort et avec Baldé qui arrive à effacer Beraldo. La frappe de Baldé, attention, le ballon a été détourné par un Parisien. Ça a failli prendre Donnarumma à contre-pied dans un réflexe, il a écarté le danger. Mais Baldé qui était parti vraiment sur le côté droit pour déborder, a repiqué dans l'axe une fois entré dans la surface de réparation. Il a trouvé un angle. Kakré maintenant qui essaye de contrôler. Ah, il a fait faute là sur Beraldo, il l'a grippé par le maillot. Et il avait vu qu'il était en train de perdre la balle et Kakré a attrapé le maillot de Beraldo. Et il a fait faute. Coup franc donc pour les Parisiens. Et c'est un coup franc qui est vraiment à côté de la surface.
Nico, je ne sais pas si tu as aperçu en même temps que tu commandes le match au Parc, parce que tu es un des seuls hommes qui peut faire deux choses en même temps. La scène entre Vinicius et Koundé dans le Real Barça, il y a 2-2 toujours. Hein, et il y a une petite échauffourée. Vinicius est venu chauffer Koundé. Et ça m'a fait presque plaisir de voir Koundé coller son visage à Vinicius et en gros lui tenir tête. Parce que Koundé, parfois en bleu, t'as l'impression qu'il est trop gentil, trop peu d'eau là. Et là, je trouve que, tu vois, alors ils ont pris un jaune tous les deux. Parce que,
ouais.
Mais tu vois, il a fait preuve de caractère. Bien parfois, sûr. Koundé, je trouve qu'il en manque en équipe de France.
C'est vrai.
Et là, bah, voilà.
Au Barça, c'est un autre joueur.
Bah ouais, c'est dingue.
Et on pourra en parler avec Mathias Valton qui connaît parfaitement le joueur et le Barça. C'est quand même un autre joueur. Et oui, c'est clair qu'il montre un peu plus de caractère. Ça, c'est une évidence.
Signé aussi dans l'équipe cette semaine un papier sur Ferland Mendy que toute l'Europe va s'arracher parce que c'est redevenu un taulier.
Bien sûr.
Ah, si on m'avait dit ça.
60 millions d'euros, ils l'ont vendu quand même, Lyon.
Oui, enfin, calmez-vous. Hein.
Ah, bah non, mais c'est pour ça, quand j'ai vu le papier pour l'équipe, alors, j'étais un peu.
Taulier, enfin, c'est...
Non, mais. Souvent on a eu des débats avec Mathias sur Ferland Mendy. Bon, c'est vrai que là il est mieux depuis quelques temps.
Oui, mais... il est mieux, mais bon.
Ah non, mais bon, mais il a plus qu'un an de contrat, donc voilà, il intéresse du monde à part.
Enfin, c'est pas un ballon d'or en puissance, mais on va dire qu'il fait le métier au Real Madrid, quoi.
Voilà. Ouais. Enfin, le Real est quand même bien en train d'insister pour faire venir Alfonso Davies hein, depuis un moment. Donc si Ferland Mendy était le nouveau Roberto Carlos, ça se saurait, quoi.
Ah bon, s'il était si nul que ça, il jouerait pas du tout, il serait au placard. Et
non, mais je suis en train de dire qu'il est nul. Mais...
Non, bien sûr. Non, mais oui, mais j'entends, bien sûr.
Allez, Danilo, pour donner ce ballon à Mukiele là-bas sur le côté droit, on est revenu par Skriniar, 5 minutes encore dans le temps réglementaire. Oh, magnifique relance de Soler là-bas pour trouver Mukiele. Il le fallait parce que Skriniar était complètement dépassé sur l'action, il a ouvert son pied.
Tu fais rentrer des joueurs de qualité.
Quand la qualité technique est au rendez-vous, forcément, ça éclaire la soirée. Avec Kanguilli pour trouver Mukiele et avec Skriniar. Non, mais alors, le pauvre, il est dans un rôle axial aussi. Par de ses joueurs parfois trimballés à plusieurs postes par Luis Enrique. Là, malheureusement pour lui, Soler, c'est vrai qu'il ne s'est pas fixé à un poste. Et là, c'est une qualité technique, mais malheureusement, Luis Enrique, entre milieu offensif, milieu défensif, voire arrière droit, il a trimballé un petit peu Carlos Soler et peut-être en train un peu de le perdre aussi parce que c'est compliqué d'avoir pleine confiance quand on est un peu dans tous les postes. C'est pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire, Danilo l'a fait, mais Soler, je suis pas sûr qu'il soit capable de vraiment s'acclimater sur le long terme par rapport à ça, surtout au rôle qu'il avait auparavant dans son club. Précédent avec Skriniar qui s'impose devant Fofana, c'était pas mal avec le ballon mis derrière pour l'ancien joueur de l'Inter. Soler qui contrôle juste devant le rond central, là les Lyonnais ne montrent plus grand chose. Il y a toujours 3 buts d'écart, 4 buts 1, le score en faveur du Paris Saint-Germain à maintenant 4 minutes de la fin du temps réglementaire et le Paris Saint-Germain donc, qui va rajouter 3 points de plus pour arriver à 66 points. En tête de la Ligue 1 et d'avoir 11 points d'écart avec l'AS Monaco, si je ne dis pas de bêtises. Monaco, deuxième de ce championnat et qui, effectivement, s'il y avait carton plein de la part des Parisiens jusqu'à PSG Le Havre samedi prochain, on pourrait avoir, selon les cas de figure, eh bien, déjà un titre de champion pour les Parisiens. Beraldo avec Soler, avec Danilo, on fait tourner là, on les fait courir les Lyonnais, mais ils vont pas chercher les. Ils sont un peu comme en première période, ils vont pas chercher les Parisiens, ils sont aussi un petit peu résignés, ils ont pas envie de prendre non plus une valise, donc ils font attention, le score est déjà lourd, 4-1 comme au match aller. Et ce score était déjà acquis en première période. À la pause, il y avait déjà 4-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Vitinha qui va donner ce ballon à Kanguilli qui a fait un petit tour sur lui-même mais il a failli perdre la balle et finalement il a recontrôle ensuite. Beraldo maintenant, Danilo, là ils sortent un petit peu plus les Lyonnais avec notamment Tolisso qui fait signe et qui initie le mouvement avec Orban, avec Baldé aussi pour venir gêner. Ouais, Beraldo, ça c'est bien fait ça techniquement pour effacer Baldé qui était en train de venir sur lui, le Brésilien qui continue. Est-ce qu'il y aura une faute de Baldé sur Beraldo au moment où il était en train de conduire là-bas, il aurait quand même pu continuer son geste, je pense, le Brésilien. Monsieur Le Texier a tout de même sifflé coup franc avec Beraldo et avec Soler.
Je me projette déjà un peu hein, parce qu'il nous reste 13 minutes d'émission et on va avoir un peu d'arrêt de jeu, donc on va aller assez vite en fin d'émission. Mais est-ce que cette victoire va changer quelque chose pour Paris? Sans doute pas. Est-ce que ça va changer quelque chose pour Lyon, cette défaite où les Lyonnais ont montré des choses mais où ils étaient menés 2-0 après 6 minutes et finalement ils vont en prendre 4 ou on verra sur un 5e ou pas.
Moi je trouve que ça éclaire quand même d'une autre lumière le résultat de dimanche dernier. C'est-à-dire que...
Tu parles du 4-3 contre Brest?
Oui. C'est-à-dire que...
Mais ils étaient menés 3-1 quand même.
Oui, mais c'est l'histoire d'un match, quoi. C'est pas forcément d'une poussée irrésistible et d'un Lyon qui... voilà, c'est l'histoire d'un match assez dingue. et avec un
qui aurait pu ou dû perdre même d'ailleurs
qui réagit etc. mais là ce soir quand tu prends le match de dimanche dernier et que tu vois ça ce soir, il y a quand même une différence qui est assez flagrante. Donc c'est pour moi il n'y a pas de continuité. Il y a l'histoire d'un match qui a été assez dingue et qu'ils sont allés chercher avec les tripes et ils ont très très bien réagi.
Et avec le changement aussi de l'entrée de Cherki à 20 minutes du terme qui a changé beaucoup de choses ce match-là en tout cas.
Là, je les trouve très décevants quand même.
Exactement.
Très très décevants.
Oui, mais je pense qu'on l'a évoqué. Pierre Sage s'est trompé, tout simplement.
Ah, il s'est un peu enflammé.
Et pour le coup, il s'est trompé. Dans son schéma, en fait, il s'est un peu renié. Parce qu'il a toujours dit ça. J'ai besoin de commencer en 4-3-3, ensuite j'adapte. J'adapte en changeant, en modelant avec Cherki.
Ce sera intéressant de voir s'il le reconnaît. Quelque part, avec la sortie à la 46e, enfin à la mi-temps de Ben Rabah pour Mata, il le reconnaît déjà.
Ouais, bien sûr.
En réajustant son équipe.
Oui, parce qu'ils ont joué.
Après, on verra s'il le dit aussi avec les mots, mais.
C'est fort possible.
Non, mais en fait, j'ai l'impression que j'arrive toujours pas à savoir le vrai niveau de Lyon, en fait.
Bah, clairement,
pas top 3 du championnat, même sur la deuxième partie, si les résultats l'indiquent. Mais voilà, j'ai du mal à les placer par rapport à des équipes comme Lens, comme Rennes, peut-être à peu près au même niveau. Mais
en fait, je pense que finalement, ces deux matchs de dimanche dernier et de ce soir, c'est peut-être dans cette fin de saison lyonnaise, finalement deux matchs à part, puisque c'est quand même une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe de championnat sur les 10-11 dernières journées. Ils perdent peu. Et puis en fait c'est deux matchs avec des physionomies différentes et peut-être que pour des raisons différentes ce sont deux matchs qui sont comme ça à part et déconnectés de ce qu'ils ont fait avant et déconnectés de ce qu'ils vont faire après. C'est-à-dire que si tu restes que sur l'impression de dimanche dernier, tu te dis cette équipe là elle est irrésistible parce qu'elle trouve les ressources, elle change, il y aura deux minutes de temps additionnel, elle change le cours du match, on voit qu'ils sont beaucoup mieux physiquement et psychologiquement, et en même temps si tu regardes que le match de soir, tu vois avec Fofana dans la surface de réparation face à Skriniar par une série de dribbles, est-ce que monsieur Texier va siffler faute et pénalty? Non, il y aura une faute lyonnaise au moment où Skriniar était en train de relancer et en même temps si tu regardes le match de ce soir, tu te dis de la même façon, t'as pas une impression de quelque chose de très fort
en fait,
qui
Nico,
se dégage.
Il faut essayer, je pense, de revenir un petit peu plus en arrière, parce que tu regardes les derniers résultats. T'évoquais ce retournement de situation incroyable, effectivement, qui change parce que Cherki rentre à 20 minutes du terme et puis ils arrivent à marquer, ils réveillent un peu le secteur offensif. Contre Nantes, quelques jours avant, ils sont quand même menés quasiment jusqu'à la 70e ou 75e. Avec ce but d'Ablin, on s'en souvient, ensuite ils retournent la situation et ils s'imposent 3-1. Contre Toulouse, il y a quelques semaines, ils sont menés 2-1 jusqu'à la 75e. Ils retournent également le scénario de ce match en s'imposant 3-2 dans les ultimes instants. C'est quand même sur le fil à chaque fois. C'est-à-dire que il y a des choix en cours de match qui font que le score évolue et qui font que Lyon est encore là. Mais c'est quand même assez convalescent toujours. Hein.
Bon là, en revanche, il y aurait eu pénalty pour une faute de Soler sur Fofana. C'était pas scandaleux non plus.
Ouais, bien sûr.
Ouais, il me semblait pas que il amplifie le geste ou quoi que ce soit.
Alors Soler fait pas une grosse intervention, mais il y a quand même contact et il est en retard, donc.
Ouais, Kanguini, il a eu beaucoup de belles courses là, devant Baldé là, pour récupérer la balle. Là, il y a eu encore du jus. On est dans ce temps additionnel avec le Paris Saint-Germain qui va s'imposer 4-1. On n'aura pas eu de but en seconde période, mais on aura eu des. Dans ce match qui s'est dessiné dès la première période, quand même 5 buts, et avec des Parisiens, on l'a dit, qui ont géré finalement assez facilement cette rencontre, aidés par le scénario, c'est-à-dire en menant 2-0 dès la 6e minute, et donc avec une facilité de justement à gérer la rencontre, et ensuite en menant déjà 4-1 à la pause. Voilà, la victoire du PSG, 4-1 face à Lyon, avec le but de Matic contre son camp à la 3e, Beraldo à la 6e, le doublé de Ramos qui a très bien exploité sa titularisation et qui est sorti à 20 minutes de la fin, et qui met un doublé à la 33e et à la 43e. Nouama avait permis à Lyon de revenir à 3-1 à la 37e. Mais Lyon finalement ne s'est jamais remis des 10 premières minutes. Les Lyonnais ont été assommés avec, on le disait, un schéma très offensif choisi par Pierre Sage, puisqu'au coup d'envoi c'était Benrahma, Cherki, Nouama et Lacazette. Et les Lyonnais ont été un peu piégés. Ils ne sont pas revenus dans cette partie et le PSG finalement a très bien contrôlé et a pu faire. Luis Enrique a pu faire les changements qu'il souhaitait. Dembélé et Mbappé par exemple n'ont pas du tout joué. Et donc sont restés tranquillement au chaud. Donc il y a eu une pleine gestion. C'est vraiment la soirée quasi parfaite pour les Parisiens ce soir.
Voilà, tranquillement, on a vu Luis Enrique et Luis Campos discuter.
Tout à fait.
Petite soirée tranquille.
Deux hommes qui s'apprécient beaucoup. Non, mais tout va bien. Il faut quand même rappeler le contexte qui est tellement favorable. Qualification en demi-finale, perspective de Dortmund, on parle de Ligue des Champions, avec une demi-finale entre guillemets abordable. Cette sérénité absolue en Coupe de France. Bon, ils sont en finale aussi, mais en championnat, avec cette avance, il n'y a pas de blessés, possibilité de turnover sans absolument aucune conséquence, possibilité de lancer des jeunes, de consigner tout l'effectif. Là, c'est d'un confort absolu pour le PSG. C'est limite trop bizarre qu'il n'y ait pas un seul problème. Je vous rappelle que ce club, quand même, nous a habitués à des semaines particulièrement chargées à tout point de vue.
Bon, avec les psychodrames Mbappé, tout ça, on a une. Mais finalement, en fait, on a beaucoup dit, ouais, il a annoncé trop tôt, tout ça. Mais en fait, peut-être que c'était bien d'annoncer si tôt.
Sincèrement, il va y avoir. Le PSG va être obligé d'apprendre autre chose dans les prochains jours, voire prochaines semaines. C'est calmer l'euphorie, parce que s'il y a bien un club qui a un master en gestion de crise, c'est le PSG avec toutes ses dernières saisons, c'est-à-dire avoir à gérer dès le mois de mars des fins de match, des fins de saison compliquées et à gérer les effectifs, à gérer les égos, etc. et tout ce qui s'ensuit. Là, c'est une autre forme de gestion à avoir, et ça n'a pas échappé à quelques-uns qu'il y a une douce euphorie qui est en train de s'installer, et que le staff parisien, évidemment, c'est pas Luis Enrique qui au contraire va aller batailler contre ça et qui va être. Mais en tout cas, il va falloir. C'est une autre gestion, c'est autre chose.
J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut être aussi euphorique. C'est-à-dire qu'il y a un retournement de situation fantastique contre le Barça. Nico, il y a juste une chose à dire. Moi, j'ai le souvenir de ce match, de cette soirée, à 3-1. Malgré la supériorité numérique, tu concèdes quand même une ou deux situations. Si Lewandowski joue mieux le contre juste avant que Mbappé marque le quatrième, sur la transition qui est dans la foulée d'ailleurs, dans la continuité. Là, si Lewandowski joue bien le coup, il décale Joao Félix, il y a 3-2, tu peux douter encore sur les dernières minutes. Je veux dire, t'es pas impérial et souverain sur tout ce match-là.
Mais c'est l'histoire de cette
saison. Non, mais là, c'est parce que c'est Dortmund et que donc, du coup, c'est largement abordable pour la demi-finale. Et c'est tout ça, en fait.
Il y a ça, mais il y a un élément qui est crucial. Et là, on commence à en savoir un petit peu plus, là, un peu avec des entourages, etc. Mais il y a un truc qui est crucial, c'est que Luis Enrique, il aura bourré mou pendant 6 jours pour leur dire que c'est faisable et pour leur dire que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que ça se passe comme ça. Mmh. Et donc, ils se disent, il y a quelqu'un là qui nous met un cap, qui nous met quelque chose. Et voilà. Et donc, gagner 4-1 en Catalogne, il n'y a comme pas beaucoup de clubs, même si on pourra toujours dire les circonstances atténuantes, à 10 contre 11, etc. Il y a beaucoup de clubs qui l'ont fait. Et donc là, il y a deux choses. Il y a la façon de faire, et t'as Dortmund en demi-finale, et avec le match retour au Parc. Donc voilà, et donc il faut aussi que.
Ouais, mais bon, alors attends, très bien. Et, alors, Nico, j'entends tout le discours et il est tout à fait réel. Je trouve que sur le 4-1, je rejoins un peu Xavier, le Barça les a quand même bien aidés. Au-delà bien même de l'infériorité numérique, pour un grand club, tu dois pouvoir déjà beaucoup mieux gérer les événements contradictoires qui arrivent, ce que le Barça n'a pas du tout fait. Sur Dortmund, avec le match retour au Parc, sur la dynamique, sur la qualité de l'effectif, etc., je l'entends. Sauf que la finale, c'est pas gagné avec des champions. Hein.
Mais bien sûr, c'est pas moi qui veux dire ça.
Tout ça semble écrit en effet jusqu'à la finale, mais la finale, il faudra quand même la gagner. Hein.
Non, mais même Dortmund, c'est pas écrit.
Non, bah oui, évidemment. Non, mais heureusement d'ailleurs.
Quand tu vois le match qu'a fait Dortmund contre Leverkusen aujourd'hui.
Et puis l'Atlético, c'est pas si facile que ça.
Non, ils sont forts en ce moment, Dortmund.
Mais bon, on verra tout ça. Je voudrais qu'on écoute 30 secondes de Marquinhos quand même, c'est l'homme du jour.
Bien sûr.
Qui va être célébré d'ailleurs au Parc après cette rencontre. On l'écoute chez nos confrères de Prime Vidéo.
C'est vrai, soirée parfaite, un bon début de match. C'était un jour important, une soirée importante pour moi. Et je voulais vraiment que l'équipe fasse une bonne prestation aujourd'hui pour bien finir. Et on est dans une bonne lancée, on a parlé dans le vestiaire. Il faut continuer comme ça, c'est pas le moment de lâcher. Surtout après Champions League, il faut continuer, il faut donner une bonne réponse. Pour nous-mêmes, pour les autres équipes, surtout on va jouer la finale contre Lyon. Et c'était important de donner ici tout sur le terrain pour qu'on puisse avoir cette confiance pour la finale aussi.
Captain Courage qui va être célébré donc par son public. Il nous reste 2 petites minutes. On note magnifique, catastrophique très rapidement en quelques mots. On commence par la note.
RTL Foot.
La note.
Ah, ça baissera peut-être un peu avec la seconde mi-temps un peu plus coussi que ça, Nicolas.
Ouais, c'est pas évident effectivement parce que on aurait pu rester à 7, descendre à 6. On n'a pas vu grand-chose finalement. On a été. J'ai trouvé Lyon.
Trop
décevant en seconde période pour rester à 7. Voilà, j'aurais aimé qu'il montre davantage de choses. Et puis le PSG a géré tranquillement, donc je descends à 6. Ça, voilà. Il y a un énorme logo, je dis ça parce qu'on ne rattrape pas le temps, mais un énorme logo du Paris Saint-Germain qui vient d'être déployé sur la pelouse du parc, qui est magnifique d'ailleurs. pour donc la célébration à venir pour Marquinhos, joueur le plus capé du club.
Ouais, c'est super, effectivement. Complètement d'accord avec Nico. 6.
6 aussi.
6 pour moi aussi, le magnifique.
RTL Foot,
le magnifique.
Pour le Real, ce sera Bellingham qui vient de marquer le troisième but pour donner la victoire au Real dans le temps additionnel à l'instant. Lui aussi, quel joueur.
C'est bien, il va calmer tout le monde parce que la petite musique qui dit oh, Bellingham, il est plus au niveau.
Il est un peu moins bien quand même.
Non, Eric, non, pas dans les matchs. Il marque moins. C'est pas un joueur qui doit marquer 20 buts dans
la saison. On est d'accord. On revient au magnifique du PSG Lyon.
Pour moi, vous allez mettre un ailier gauche. Moi, je mettrais un avançant, je mettrais Ramos parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de le mettre magnifique dans un match du PSG. Mais je trouve que il n'a pas forcément beaucoup de temps et il utilise à bon escient. Il a marqué un doublé ce soir. Je mets Ramos.
Ah, pour moi, c'est Bradley Barcola. C'est lui qui déclenche tout à chaque fois. Franchement, je le trouve assez remarquable.
C'est trop dur de choisir, donc vous mettez Barcola et Vitinha dans un mixeur et le résultat de ça, c'est le magnifique du soir.
Voilà, ok, ça sera Ramos pour moi également pour le magnifique du soir. On va pas avoir le temps de finir le catastrophique. Bellingham nous a coupé les jambes, mais c'était important de donner le résultat. C'est pas fini, alors il reste 3 minutes de temps additionnel entre le Real Madrid et Barcelone. Pour l'instant, le Real donc 3-2. C'est pour ça que ça me fait penser, on disait la finale avec les champions, il faudra la gagner. Je sais pas si ce sera contre le Real, mais cette équipe, elle va être dure à prendre quand même, quoi qu'il arrive. Merci Nicolas en tout cas pour ce PSG Lyon.